à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing. Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu dans les grandes largeurs hier soir à Monaco, 3-0 pour la deuxième journée de Ligue 1 après son succès pourtant contre Lyon en lancement de la saison. On va revenir évidemment sur ce match et il y a beaucoup à dire avec nous ce soir, Mounir Marzouk. Salut Mounir.
Bonsoir.
Sans club cette saison, c'est presque les vacances.
Ouais, on peut dire ça, je profite pour être spectateur et pas acteur.
Ça marche aussi. Et en face de toi, Fabrice Bonnet de Zut, un autre habitué du plateau. Salut Fabrice.
Bonsoir.
Messieurs, on prend un peu la tête parce que le Racing, on a quand même pris une bonne hier soir. On va revenir sur ce match à Monaco. On parlera notamment du cas Abakar Sylla dans cette première partie de Cop Racing, la recrue la plus chère de l'histoire du club qui est passé à côté de son match. Il n'est pas le seul. On parlera aussi du 11 aligné hier soir qui ressemblait quand même furieusement à celui de la saison dernière. Voilà pour le programme de la première mi-temps. Le Racing battu donc 3-0 en principauté, et le Racing qui n'a pas beaucoup existé dans ce match. Fabrice, un Racing en dedans, inoffensif, offensivement, qui a subi la loi d'une belle, certes, équipe de Monaco. On a senti beaucoup d'impuissance dans ce match, ça nous ramène presque un an en arrière.
Presque, ça nous a fait penser à certains matchs quand on allait à Rennes, où on voyait pas du tout, le Racing ne voyait pas le jour ni le ballon. Et hier soir, c'était ça, on s'était proche du néant. Je crois qu'il y a eu une occasion de la tête de signer Motiba qui passe au-dessus du but monégasque. Et ensuite, que dire, que retenir, peut-être les deux pigeons évacués de la misérable pelouse de Louis II, les ultras parés de chemises à fleurs et de colliers avec un look très estival et peut-être le
baisement. Bon, on a rigolé, quoi.
Voilà, c'est ça. Et le baisement princier à la fin du prince Albert à destination de l'épouse du président du propriétaire de l'ASM.
Voilà. C'est déjà pas mal à retenir. Mounir, sur un plan un peu plus football, on a vu un Racing peu équilibré, faible milieu, très bas derrière, impuissant devant, ça fait beaucoup de croix rouges.
On a beaucoup de croix rouges, effectivement. Moi, j'ai trouvé un Racing faible, sans ambition, presque sans envie. On le voyait, ils étaient tout le temps en retard sur toutes les interventions. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance. On est au début d'une nouvelle aventure avec un nouvel entraîneur, avec beaucoup de nouveaux joueurs, même si le 11 ressemblait furieusement au 11 qui a terminé la saison dernière. En plus, pour moi, en moins fort encore, parce que il n'y avait pas de
Djikou. On en parlera effectivement tout à l'heure.
Pas de Djikou derrière et un attaquant en moins encore. Donc, compliqué.
Compliqué.
Mais aussi, moi je trouvais également que le bloc équipe était plutôt étiré et qu'il y avait plein d'espace. C'était des boulevards pour les joueurs monégasques de passer entre les lignes. En première mi-temps, c'était vraiment flagrant. Il y a eu le début de deuxième période où ils ont un peu resserré le marquage. Mais c'était vraiment éphémère, ça a duré 10 minutes.
D'accord. Costaud quand même. Enfin, le petit bémol aussi, c'est qu'il y avait en face une très très belle équipe de Ligue 1.
Moi j'ai trouvé Monaco très équilibré. Qu'ils ont joué aussi avec trois centraux, avec des centraux qui sont restés tout le temps structurés, qui ont tactiquement très bien joué, parce que les centraux de Monaco, les trois derrière, je ne les ai pas vus tripoter le ballon, je ne les ai pas vus allonger, je les ai vus tout le temps dans l'anticipation. Relance très propre, simple, très sobre, c'est ce qui a manqué au Racing, notamment avec nos trois centraux derrière.
On va revenir en détail sur certains des points que vous avez commencé à soulever. On va quand même mettre le focus sur un joueur héros, malgré lui, entre guillemets, de la soirée. Abakar Sylla, recrue la plus chère de l'histoire du Racing, 20 millions d'euros, le double de ce que le club avait dépensé pour Habib Diallo il y a quelques années. Arrivé donc du FC Bruges. Il est fautif assez clairement sur les deux premiers buts, même aussi impliqué sur le troisième, fatalement, de par son poste. Fabrice, inquiétant. Ça arrive entre guillemets ou ça fait quand même beaucoup, même à 20 ans.
Ça fait c'est inquiétant. On peut pas être catégorique vis-à-vis de ce joueur-là, mais c'est vrai qu'il dégage une certaine nonchalance par moment qui fait un peu peur. Et puis ses relances aussi sont pas vraiment ce qu'on pensait. On pensait que c'était un de ses points forts. Donc oui, c'est un peu inquiétant, surtout par rapport à l'argent qui a été mis sur ce joueur-là. Donc Après, on peut se poser aussi la question de la valorisation des jeunes joueurs aujourd'hui.
Est-ce c'est un investissement au final, c'est pas sa valeur intrinsèque au moment où
quoi. Sa valeur marchande a été de 8 millions, mais je crois qu'il y avait une concurrence d'autres clubs européens dessus, et puis les enchères ont vite grimpé pour atteindre ces 20 millions-là. Quoi. Donc c'est vrai que c'est perturbant par rapport à la somme d'argent investi, surtout à Strasbourg, on n'était pas du tout habitué à ce genre de folie.
On est un peu perturbé dans nos repères.
Donc,
Mounir, pardon, quand tu disais que les centraux de Monaco ne tripotaient pas le ballon, c'était en miroir, c'est la critique de ce qu'on peut lui reprocher sur le premier but, notamment.
Alors, notamment ça, mais après, il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Mais quand on regarde en termes de valeur intrinsèque, on avait Simacan, qu'on a vendu à Leipzig au même prix.
Un peu moins, 13.
Exactement. Je sens pas la même qualité. En toute honnêteté, je sens vraiment pas la même qualité. Pourtant.
Et en plus, Momo Simacan, il dégageait une polyvalence. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer au centre, éventuellement sur un côté. Et puis, il avait même joué 6 certains matchs. Quoi. Donc,
mais c'est vrai que. Après, il faut. C'est le revers de la médaille avec des jeunes joueurs. C'est qu'il y a cette insouciance qui est parfois positive. Mm-hmm. Mais dans des situations comme celle qu'on a vue hier. Où ils s'aventurent dans des dribbles, dans des crochets parfois très 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 hasardeux, on se retrouve en difficulté. Et bon, il va l'apprendre. De toute façon, s'il apprend pas, il apprendra à ses dépens. Hein. C'est comme ça que il va se forger aussi une certaine expérience et puis progresser. C'est un jeune joueur, donc il faut accepter ça. Le Racing a misé sur beaucoup de jeunes. Même si ce que je te disais tout à l'heure, la moyenne d'âge du Racing hier.
Garde-toi ce petit chiffre au chaud parce que pour tout à l'heure. Pour finir, c'est un bon cas de management aussi. Quand un joueur passe à côté de son match comme ça, au match d'après, il y a un match contre Toulouse, on en parlera aussi ce dimanche. Fabrice, tu le laisses sur le terrain tu mets un Perrin ou un autre joueur à la place.
Honnêtement, je m'étais posé la question à la mi-temps du match de Monaco. Est-ce qu'il allait sortir parce qu'il y avait déjà 2-0 pour l'ASM. Et je me suis souvenu de ce que disaient certains entraîneurs, dont un qui était passé à Strasbourg il n'y a pas très longtemps, Thierry Loret, qui m'avait dit qu'il l'avait fait une seule fois et que c'était un peu désastreux pour le joueur. Quoi. Donc finalement, Vieira a gardé le même 11 et il est reparti en deuxième mi-temps avec le même. Donc je me suis dit, bon, il a encore un peu de confiance à ses yeux. Après, le sanctionner pour le match de Toulouse... Tout dépend de ce qui se passe cette semaine à l'entraînement. Après, il y a des solutions de rechange. On parlait de Perrin. Il y a un joueur qui s'appelle Sou qui a été recruté à Saint-Etienne. Un jeune joueur, un jeune espoir aussi.
Même âge. Hein, un an de plus, je crois, mais qu'on n'a pas encore, pas encore vu. Mounir, pardon, vite, parce que le temps tourne. Donc, il y a beaucoup coaché. Pareil, c'est pas forcément une sanction. C'est aussi, il n'est peut-être juste pas au niveau en ce moment. Et peut-être que contre Toulouse, dimanche à la Méo, je mets quelqu'un d'autre.
Non, mais je pense qu'il faut le laisser. Il est jeune, il apprend. Il faut quand même lui garder une certaine confiance. Il a besoin de ça. Et un jeune joueur, sinon, il va se retrouver très très rapidement au fond du trou. Mais encore une fois, ces joueurs-là, il faut les encadrer. Donc, je pense à un Djikou, par exemple, qui a une certaine expérience. Quand on regarde hier la défense centrale, j'ai trouvé la défense centrale tactiquement pas au point. Ça dézonnait beaucoup. Je reviens sur les trois centraux de Monaco. Ils ne dézonnaient pas du tout. Très, très peu. Ils ne sortaient pas du tout du bloc défensif. Et là, j'ai trouvé des joueurs, que ce soit Doucouré ou Silla, ils dézonnaient énormément. Hein.
Allez, le temps tourne. On va parler, justement, tu as commencé à le lancer, parler des nouvelles recrues du Racing. On a intitulé cette séquence « Où sont les recrues ?» Tout simplement, on connaît la formule de Marc Keller, hein, le stade de demain avec l'ambiance d'aujourd'hui. Hier à Louis II, c'est plutôt l'équipe d'aujourd'hui avec les joueurs d'hier. 9 des 11 titulaires, regardez, tiens la compo de ce soir-là. 9 des 11 titulaires étaient là la saison dernière, les seules entrées. Silla, donc en défense, on vient d'en parler, et Jesse Deminguet au milieu. On a pas eu là-dedans notamment Diallo, notamment Djikou dont vous parliez. Fabrice, il n'y a pas de miracle en fait. Une équipe qui a joué le maintien quasiment jusqu'à la dernière journée l'an passé, est-ce qu'on pouvait en espérer mieux?
On peut toujours espérer mieux quand on joue le maintien. L'an dernier, je crois qu'on avait attendu quelques journées avant d'avoir une première victoire. Donc, cette saison, c'est déjà...
On en a une.
Cette case est cochée au moins, donc ça, c'est déjà bien. Mais on pouvait s'attendre à mieux. Après, c'est une question d'automatisme aussi. Dans le lot, l'attaque, c'était Motiba Gamero. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient été beaucoup associés l'an dernier non plus. Pareil pour Gilbert Delaine sur les deux pistons. Il y avait un décalage assez flagrant entre les deux, avec un Delaine très offensif et plutôt bon, et un Gilbert parfois hésitant dans ses gestes techniques, comme lorsqu'il a tiré les corners en fin de partie, où il n'y avait personne. Donc je ne sais pas trop quoi penser de ça, mais je pense que c'est plutôt l'ensemble du collectif. Alors ok, il y avait les anciens joueurs, mais après, dedans, qu'est-ce qu'on fait de Diarra, qui semblait rechigner à remplir cette saison avec le Racing.
On parlera de son cas aussi tout à l'heure, juste après la pub, justement, avant de cette petite pause. Mounir, en un mot, tu disais, cette équipe, on a recruté beaucoup de jeunes, on a vu plutôt des anciens en fait.
Ouais.
Tu regardais,
ouais,
tu as vérifié en
stats, c'est ce que je disais, on a fait un peu du réchauffé, même avec Motiba et Gamero qui n'ont pas beaucoup joué non plus la saison dernière. Moi je pense qu'aujourd'hui, le Racing manque d'équilibre, très clairement. Et si je devais cibler aujourd'hui un point vraiment faible au Racing, c'est le poste de 6. On est totalement déshabillé. Alors Deminguet a essayé d'exister. Je regardais en termes de kilomètres parcourus, il a beaucoup couru, mais quand on voit la rentabilité derrière, je suis pas persuadé que ce soit un poste pour lui. Il est peut-être plus animateur que récupérateur. Et aujourd'hui, on prend très honnêtement, quand on voit au milieu de terrain, on prend des vagues. Hein. Peut-être que la défense subit beaucoup trop pour son âge, et donc derrière, on se retrouve très très vite en difficulté. Hein.
Impeccable, tu m'as fait le teasing de la suite. On parlera effectivement de ce qu'il manque encore à cette équipe, de l'âge, de l'expérience, et puis des recrues peut-être encore, puisque le mercato est ouvert jusqu'au 31 août prochain. On parlera de tout ça dans la suite de Cop Racing et puis du match contre Toulouse, le prochain adversaire des Bleus. Ce sera dimanche 15h à la Méno. Une courte pause, restez bien au chaud avec nous et on revient dans un instant. La deuxième mi-temps de ce Cop Racing, toujours en direct sur BFM Alsace. On va parler des changements du chantier, surtout du Racing, avec un paramètre, le mercato, qui court jusqu'à la fin du mois. Mounir, Marzouk, il faut pour toi la solution. On a tout ce qu'il faut, le Racing, le club est outillé. Ou la première, le premier chantier, c'est déjà de compléter cet effectif. Qu'est-ce qui manque pour l'instant? Quels sont les manques les plus criants que tu identifies?
Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un poste de récupérateur qui doit être comblé. Et il faut absolument qu'on trouve quelqu'un à ce poste-là.
Il y a pas ce profil dans l'équipe aujourd'hui pour toi?
J'ai un profil, mais je sais pas pourquoi il joue pas. Alors il a ses qualités et ses défauts, mais sur ce que j'ai vu hier, il aurait pu ramener sa pierre à l'édifice. Je pense à Sissoko.
D'autant que moi, Sissoko, le grand Sissoko en pleine forme, pour moi, il me faisait penser à Vieira, quoi.
Oui.
Capable de perforer toute une équipe, de jouer box-to-box. Il l'a déjà montré par le passé, quoi. Donc, en effet, on ne sait pas trop.
Et puis, il est polyvalent. Il a joué dans l'axe aussi. J'ai pas trouvé qu'il déméritait quand il jouait. Alors il faisait des erreurs, ok, mais de là à se passer d'un Sissoko et mettre un Jesse Deminguet en récupérateur, qui est plus un profil de joueur meneur, c'est ce qu'on disait à Colmar contre Sturmgratz. Il a été très bon, mais il était positionné un peu plus haut.
Autre manque, hein, quoi, un joueur un peu leader technique, capable d'orienter, de distribuer vers l'avant.
Le Racing a misé sur de la jeunesse. C'est honorable, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais cette jeunesse-là, elle a besoin d'être encadrée, entourée, pour pouvoir aujourd'hui la mener un peu plus loin. Et le constat qu'on fait, c'est que les cadres, on a Matsels qui est au but. On a Gamero, mais qui joue moins et qui n'est pas forcément super performant aujourd'hui.
Et pas forcément le leader
qui
sur
pas
le terrain.
Leader, voilà, qui n'a pas ce leadership aujourd'hui.
Qu'avait emmener... Djigou l'an dernier, par exemple.
Par exemple, je dirais pas d'implication, mais en termes de niaque. En termes de niaque, ce qui nous a manqué cruellement hier après-midi. On l'a clairement vu.
Fabrice, qui pour encadrer déjà encadrer cette équipe, mais aussi bah, être le, comme dit, oui, le laboyeur, le meneur, celui qui replace, celui qui tempère, celui qui dit on accélère.
Alors je ne sais pas si on l'a dans l'effectif, on doit l'avoir, on a quelques grognards, mais en effet ils sont sur le banc, ou alors pas du tout dans le groupe. Perrin peut l'être éventuellement, hein, dans le rôle d'aboyeur. Mais après, bon, en effet, on parle de leader, il y a le leader d'homme, il y a le leader technique. Il faut savoir aussi à combien, qu'est-ce qui reste sur le compte de cette équipe, parce que j'ai dépensé plus de 50 millions d'euros pour se renforcer, plus un prêt, le prêt d'Angelo de la part de Chelsea. Donc, est-ce qu'il reste de l'argent? Moi, j'achèterais aussi, je me renforcerais devant avec un buteur, parce que on a pu constater hier que Diallo, bah, il manquait, parce que Diallo, c'était un joueur capable de bonifier le pire ballon et le.
Ça, il y a eu des pires ballons, on en a.
Voilà. Et là, on se rend compte que, bah non, c'est pas donné à tout le monde.
On s'est un peu enflammé, peut-être, après Lyon, parce que victoire, parce que le but de Motiba, la fête, etc. Saï blessé, on compte sur lui quand même cette saison. Emilia, bah, du coup, bon, malade hier, mais 20 ans seulement. C'est vrai que, on se dit, en nombre, numériquement, 4 attaquants, c'est bien. Mais il manque peut-être celui qui est vraiment indiscutable, comme dit le Diallo de l'an dernier.
Oui, c'est indéniable. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le tueur devant. On a des joueurs, on parle de Emega, qui est parfois brouillon, mais qui prend les espaces, qui va harceler. Oui. C'est ce qu'on n'avait pas du tout hier. Après, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos des attaquants, parce qu'ils ont eu des ballons qui n'étaient pas forcément... jouable en tout cas. On avait des longs ballons de la défense sur Gamero avec les trois.
On combine le problème dans l'autre sens. Est-ce que du coup c'est une question aussi tu l'as évoqué un petit peu avant, d'équilibre, d'animation, la touche de l'entraîneur tout simplement. Comment on fait un truc cohérent avec tout ça ?
Objectivement, hier soir, quand j'ai essayé d'analyser un peu le match, je me suis posé la question suivante. C'est aujourd'hui, objectivement, est-ce qu'il y a la patte de l'entraîneur ?
La patte de patte.
J'ai pas vu de cheminement préférentiel. J'ai pas vu de relance de derrière avec une progression en passant par les milieux. J'ai pas vu ça. Chaque entraîneur, pour moi, amène sa touche. Antonetti, on a vu. C'est peut-être pas le meilleur tacticien au monde, mais en tout cas, on voyait qu'il y avait une certaine niaque, qu'il y avait une certaine envie. Tout se faisait à l'énergie, mais pas que, parce qu'il y avait aussi de la qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Stéphane, avant, on voyait qu'il y avait un gros pressing à la perte. Là, je ne le vois pas encore. Et je suis... ça m'interpelle. Voilà.
Après, Antonetti avait une connaissance assez aiguë des joueurs qui étaient à Strasbourg avant d'arriver. Là, je pense que tout le monde, enfin, et le staff les premiers, découvrent les joueurs qu'ils ont sous la main. Quoi.
Il faut juste du temps ou pour toi, il y a... forme d'urgence quand même, parce que c'est beaucoup de très jeunes joueurs.
Il faut un peu de temps, mais après on peut se poser la question sur la préparation. Certains sont venus au compte-gouttes, déjà d'autres un peu après. L'histoire d'Angelo par exemple, qui fait une tournée américaine avec Chelsea, qui finalement vient à Strasbourg. Bon, en fait, il a fait du tourisme aux États-Unis, alors qu'il aurait pu faire la préparation et commencer à développer quelques automatismes. C'est une énigme.
On est sur un 3-5-2. On est sur un 3-5-2 de l'année dernière. On est resté dessus. Est-ce que Patrick Vieira attend d'avoir un certain vécu avec les joueurs, et notamment des arrivées tardives, pour qu'ils aient un certain vécu entre eux, pour pouvoir commencer à changer de système? Je pensais au 4-3-3. Faut les joueurs pour. Hein. Parce qu'Arsenal, c'est ce qui fonctionnait à merveille. Aujourd'hui, c'est l'interrogation qu'on peut avoir. On sent pas forcément de changement. Et donc après, c'est pas tout totalement déconnecté que de dire ben je repars avec un 3-5-2, c'est les joueurs et c'est les mêmes joueurs.
Allez, un petit mot, parce que le temps tourne sur ce qui attend le Racing, la venue de Toulouse. Ce sera dimanche, 15h à la Méno. Toulouse qui a plutôt bien démarré son championnat, victoire à Nantes lors de la première journée, après avoir été mené 1-0, match nul contre Paris. Une équipe qui n'a que ses deux buts que sur pénalty. C'est quoi? C'est un bon test, Fabrice? C'est une équipe censée être dans la zone du Racing, hein. On dit jouer entre 6 et 10, grosso modo. Ça pourrait ou ça devrait être la zone 2. De Toulouse aussi, opération rachat, qu'est-ce que tu changes?
Toulouse a aussi beaucoup changé son effectif à l'intersaison. parce qu'ils sont aussi dans une logique de trading. Donc, on va pouvoir se jauger, Strasbourg va pouvoir se jauger avec, en effet, un concurrent sans doute direct pour le maintien ou le ventre mou, quoi. Donc, c'est un match assez important. À voir si Vieira chamboule son effectif ou alors s'il maintient encore la confiance, ce sera l'une des clés de ce match, selon moi.
Après, une claque comme ça, 3-0, Mounir, tu changes tout. Non, tu fais des ajustements ou tu te dis, bon, allez, confiance.
Non, je pense qu'ils auront une bonne semaine de travail, il y aura une bonne remise, une bonne claque de temps en temps, ça fait pas de mal. Il n'y a pas de quoi révolutionner toute une équipe. Moi, j'ai vu jouer Toulouse sur le premier match. Ils ont pris l'eau en première mi-temps contre Nantes. Après, ils ont très bien redressé la barre. Contre Paris, ils se sont retrouvés dans un bloc bas et puis ils ont attendu. Là, ils sont dans un contexte encore différent. Au Racing, avec une ambiance... de feu. Je pense que le public aura son rôle à jouer dimanche face à Toulouse, je pense. Ouais.
On peut compter là-dessus, Fabrice. S'il y a une certitude au Racing, c'est que le public sera derrière.
Alors oui, je pense, mais encore que tout reste à savoir s'ils arriveront à s'identifier à cette nouvelle équipe. Parce qu'il y avait de ça dans l'histoire de la reconstruction du Racing. Il y a une grosse identification des fans, du public, ce que tout le monde appelait l'ADN du Racing en quelque sorte, était là. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Donc, est-ce que le public sera encore patient et soutiendra ses joueurs dans la difficulté et l'adversité, comme c'était le cas ces 10 dernières années, ce qui faisait toute la beauté de la Méno. Je suis pas totalement sûr. Je pense qu'il y aura un peu moins de mansuétude à l'égard de certains comportements ou de résultats médiocres.
Oui, en 20 secondes, Mounir, c'est que le public s'identifie au battant, il ne faudra pas la nonchalance que tu as évoquée parfois, ça passera pas.
Non, ça passera pas. Après, je pense que le Racing a besoin de s'identifier à une équipe. Il a besoin, en tout cas, les supporters ont besoin de retrouver des valeurs qui caractérisent l'Alsace. On a besoin de ça, cette identification-là. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un certain vécu avec cette équipe-là pour pouvoir apprécier les qualités de chacun. Il faut laisser maintenant cette équipe vivre et pérenniser les résultats. Et puis, je ne suis pas inquiet sur les supporters qui continueront à soutenir le Racing, parce qu'on soutient le Racing, mais on soutient toute une région.
Allez, réponse. Élément de réponse, dimanche après-midi à la Méno. Vous le savez, dans Cop Racing, on ne fait pas que parler de football. Petit focus sur les deux Alsaciens qui étaient en lice aux Mondiaux de Budapest en athlétisme. C'était ce week-end. Regardez.
Pour ses premiers mondiaux d'athlétisme, Pauline Stey réalise une très belle performance lors du 20 km marche. 18e sous le chaud soleil de Budapest, la jeune Alsacienne de 21 ans a atteint son objectif de terminer cette épreuve dans le top 20 mondial à seulement 3 petites secondes de son propre record de France Espoir établi il y a un mois. De bon augure en prévision des Jeux Olympiques à Paris l'été prochain, elle qui espère disputer le 20 km marche mais aussi le relais par équipe. La Française termine à près de 4 minutes de la nouvelle championne du monde, l'Espagnole Maria Pérez, vainqueur en 1h, 26 minutes et 51 secondes. De son côté, Julien Ranque ne décrochera pas son rêve d'arracher un billet pour les demi-finales du 1500 mètres. Le Brumatois de 26 ans termine dernier de sa série suite à un incident dans le dernier virage de la course.
C'est déjà la fin de ce Cop Racing 2e de la saison. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour revenir sur le match contre Toulouse, dimanche 15h à la Méno. Fabrice Bonnet, Mounir Marzouk, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Ça passe toujours trop vite, mais c'est bon signe. En tout cas, on vous retrouve avec grand plaisir très bientôt sur le plateau de Cop Racing. Excellente soirée à toutes et à tous.